France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis qu'elle rit de se voir si belle en ce miroir, qu'elle fait hurler Milou à la mort, qu'elle est le cauchemar du capitaine Kodak, Bardock, enfin bon, vous m'avez compris, vous pensez bien sûr à Bianca Castafiore. Immortalisée par les aventures de Tintin, la célèbre cantatrice reste pourtant une énigme. Excepté sa passion pour les bijoux qu'elle a le don de perdre, on ne sait rien de ses origines, des débuts de sa carrière, des artistes qu'elle a croisés. Le zèle et l'obstination d'Albert Algou, mon invité et fin connaisseur de l'univers de Tintin, a permis, au prix d'exigeantes recherches, de reconstituer le puzzle et de découvrir un personnage fascinant dont l'histoire se confond avec celle du XXe siècle. La Castafiore, nouvelle biographie très enrichie et toujours non autorisée, d'Albert Algou au Cherche Midi. Vivica Geno, accompagnée par l'Académie für Alte Musik, dirigée par René Jacob, c'était un extrait de l'opéra Merope de Geminiano Giacomelli, ce célèbre air « Quel usignolo che innamorato », le rossignol amoureux. Bonjour Albert Algou.
Bonjour Philippe.
Rossignol amoureux pour évidemment mettre en parallèle avec le rossignol milanais, le surnom de la Castafiore, nous allons y revenir très vite, et puis aussi faire un pont avec cet air qui a été créé par Farinelli à Venise, le célèbre Castra, et vous nous apprenez que donc Bianca Castafiore est née en 1892.
Le 23 mars. Hein.
Voilà, à Naples.
Comme moi. Voilà. Le 23 mars, mais
pas la même
petit
année.
Un petit peu après, un tout petit peu.
Donc à Naples, fille d'un père miroitier.
Oui.
Et elle devient très vite l'élève d'Alessandro Moreschi, qui passe pour le dernier castrat.
L'ultime castrat,
voilà,
oui, de l'histoire de la musique.
Voilà, donc en fait, en quelques années, on fait un bond, Farinelli, Moreschi, la Castafiore. Quelle est sa formation alors musicale?
Ah, c'est une formation musicale très très intense, sous la houlette de Moreschi, c'est-à-dire travail au miroir, travail, une chose très originale aussi, l'apnée, c'est-à-dire on habituait les apprentis chanteurs, les élèves chanteurs, à retenir leur respiration en gardant la tête sous l'eau, ce qui sert servira beaucoup plus tard à la Castafiore dans des circonstances beaucoup plus tragiques sous l'occupation en Belgique notamment.
Voilà. Assez vite, elle est commence à se faire reconnaître. Puccini, vous nous dites a failli la faire la choisir pour la fille du Far West, et puis finalement ça ne se fait pas. On apprend qu'elle croise beaucoup de personnages politiques, Clémenceau, De Gaulle. On apprend également qu'elle fait de la résistance pendant la guerre, qu'elle croise les colonels Mortimer, Muller. Oui. Quand est-ce qu'elle apparaît pour la première fois dans la vie de Tintin?
Alors, elle apparaît pour la première fois dans la vie de Tintin, c'est relaté dans le sceptre d'Ottokar. Bon, sa carrière est déjà lancée depuis pas mal de temps, hein, c'est déjà une star internationale puisqu'elle se produit là dans les Balkans, elle chantait en la Yougoslavie de l'époque et puis la Bordurie, la Sildavie. Et donc Tintin, ça se situe avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, 1936-1937. Et Tintin fait de l'autostop, si l'on peut dire, dans une forêt de Sildavie, entre la lointaine campagne sildave et la capitale Klof, et un véhicule s'arrête, une vaste limousine, il est pris à bord, et il tombe sur la Castafiore, accompagné de son pianiste, son accompagnateur, dont on ne connaissait pas encore le nom à l'époque, le Igor Wagner, qui est Igor pour ascendance stravinskienne,
c'est ça,
ouais. Et Wagner pour une ascendance encore plus illustre. Et donc Tintin est pris en charge dans la voiture, et là, la Castafiore, bijoutée, emperlousée, manteau de fourrure, nez à piquer des gaufrettes, se met à chanter le fameux air des bijoux pour lui faire une petite démonstration, et au risque de briser les vitres, puisqu'il y a un dessin célèbre d'Hergé qui montre sur la vitre de la voiture vers Sécurite. Tintin lance un regard apeuré vers le verre de peur qu'il ne se brise, mais c'est lui dont les tympans vont se briser puisqu'il descend.
Mais alors...
il préfère descendre plutôt que de poursuivre le voyage jusqu'à Klof en compagnie de la Castafiore chantante.
Et de sortir sourd de la voiture.
Sourdingue mais... complètement, comme voilà. Tournesol le sera plus tard.
Voilà. Mais Albert Algou, je voudrais qu'on résolve un mystère. Est-ce que la Castafiore chante faux ou elle chante fort?
Ah, elle chante juste et puissamment. C'est-à-dire, elle a une voix ample et mélodieuse. Donc souvent, on l'a ramenée, on a voulu que...
Florence Foster-Jenkins
soit
modèle, mais en fait,
un
pas
modèle.
Du tout.
Absolument pas. Non, probablement les réticences d'Hergé pour l'art lyrique... Quoique là encore, il est beaucoup menti.
Ça se discute,
dans les interviews, ça se discute beaucoup.
Oui.
S'exprime dans les albums en caricaturant un peu la Castafiore. Mais en fait, la Castafiore n'aurait pas eu cette carrière internationale, puisque dans d'autres albums, hein, lorsqu'ils se trouvent au Tibet sous la tente, d'un seul coup, les Sherpas, qu'est-ce qu'ils écoutent? C'est la Castafiore qui chante. Une autre fois dans le désert, c'est un cheikh qui félicite Tintin pour avoir connu la Castafiore. Donc carrière internationale, c'est pas dû au hasard. Tandis que Madame Jenkins ne chantait que dans des salles dont elle achetait les places à l'avance.
Ça gratouille, ça chante pas très très juste, mais c'est un document historique de première importance puisque c'est Alessandro Moreschi, donc le dernier castrat, enregistré à Rome en 1904. Ce fameux Moreschi, qui fut donc Albert Algou, vous nous dites, donc le professeur, le maître de Bianca Castafiore.
Oui, oui, son professeur de chant, le premier qui l'avait remarqué à Naples, hein, parce que on dit Rossignol milanais, oui, on devrait dire Rossignol napolitain, car beaucoup de chanteurs et de chanteuses surgirent à Naples et non à Milan. Hein.
C'est une des vérités que vous rétablissez dans votre biographie de la Castafiore, Albert Algou. Donc un extrait de cet Ave Maria de Bach Gounod. Donc Gounod déjà, est-ce que c'est Moreschi qui a donné à Bianca Castafiore cet amour de la musique de Gounod, vraisemblablement?
Oui, oui, bien sûr. Sans doute parce que le fameux air des bijoux est lourd d'un double sens. Ah, oui. Je ris. Elle rit. Oui. Pourquoi rit-elle de se voir si belle en ce miroir? Peut-être pour une autre raison que de se sentir belle. Hein, oui. Puisqu'à un moment, elle dit « Je ne suis pas demoiselle. Je ne suis pas demoiselle. » C'est les paroles, j'invite les auditeurs à relire ou à réécouter paroles, indépendamment de la mélodie, qui donnent...
Ça ouvre des perspectives nouvelles.
Des perspectives bouleversantes sur l'identité. Mais je laisse les lecteurs découvrir, de suivre l'enquête. Je me permets de dire que Moreschi, il faut savoir que les castrats, c'était une pratique interdite depuis la Révolution, depuis que Napoléon avait envahi Venise. Et le Vatican aussi avait interdit le commerce et la pratique des castrats. Et donc, ça s'est fait dans la clandestinité tout au long du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Moreschi attend le dernier parce que c'était répréhensible.
Et alors, on a parlé de la rencontre entre Tintin et la Castafiore. Et la rencontre, vous nous l'apprenez aussi, Albert Algou, dans votre livre, la rencontre entre la Castafiore et Hergé. Il la rencontre tout jeune, en fait. Il était jeune scout, c'est ça?
Oui, il était jeune scout. La Castafiore était venue se produire à Bruxelles. Et donc, Hergé était dans une patrouille de scouts sous le... c'était Renard Curieux, je crois, son totem. Et c'était évidemment un collège non mixte. Il n'y avait que des garçons. Et sous la houlette d'un prêtre, d'un curé, ils sont allés écouter la Castafiore à l'opéra. Et Hergé a été relativement bouleversé par ce qu'il entendait, mais en même temps, il était un petit peu persifleur, donc il se moquait. Il a été puni, et la punition consistait à venir faire ses excuses après la représentation dans la loge de la Castafiore à la diva, de lui faire des excuses d'avoir ricané, même si elle ne l'avait pas entendu pendant la représentation.
Donc là, il était plus jeune, il avait quoi, une douzaine d'années, quelque chose comme ça.
Il avait 12 ans. Donc, et là, pour ce préadolescent, la rencontre dans la loge de la Castafiore est un moment tout à fait extraordinaire et bouleversant pour les raisons que les lecteurs découvriront, et ça va le marquer pour le restant de ses jours, au point qu'il en fera un des personnages de sa saga.
Mmh. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement il avait sans doute exagéré sa phobie envers l'univers lyrique, puisqu'il disait que dans un entretien, il ne voyait que la grosse dame, le carton pâte des décors, le fer blanc des cuirasses et les barbes postiches des figurants. Et en fait, finalement, c'est un univers qui l'a marqué et auquel il fait allusion régulièrement dans ses différents albums.
Oui, Hergé n'était pas franc du tout, parce que Hergé a très très peu parlé de sa mère dans les interviews, qui était un personnage fondamental dans son éducation, éducation artistique, éducation musicale, éducation cinématographique. Sa mère, dont il parlait très peu, a une énorme influence, parce que son père était relativement fadasse, mais sa maman était un personnage très drôle, avait beaucoup d'humour, et malheureusement a été frappée de crise, comment dire, de démence, puisqu'elle est morte à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique. Hergé venait lui rendre visite, je crois c'est jusqu'en 1948, et il était très pudique sur sa mère, vu la fin tragique de cette femme, qui est morte, disons, folle, mettons des guillemets, évidemment, à cet adjectif. Et elle l'avait emmené au cinéma, au théâtre et à l'opéra. Et Hergé connaissait beaucoup mieux l'opéra qu'il ne le dit, puisque à plusieurs reprises, comme vous le disiez à l'instant, des allusions fréquentes sont faites à l'opéra dans les albums. Par exemple, le professeur Cyclone, qui est un professeur un peu dingue, il chante un air de Madame Butterfly. Tintin lui-même, quand il est ivre-mort dans le crabeau pince d'or, dans la cave...
Blanche,
voit, voilà, c'est une allusion à la Dame Blanche de Boieldieu, etc., etc. Il y a de nombreuses allusions à l'opéra. Donc, pour un mec qui dit ne pas du tout aimer l'opéra, c'est un petit peu bizarre.
Oh, l'air de bisous, pensé par Madame Arnaud.
Pas la Castafiore, mais une chanteuse qui l'a fortement marquée et influencée. C'était la soprano finlandaise Aino Akte, enregistrée à Paris en 1905. Elle fit une carrière d'ailleurs à l'Opéra de Paris, où elle débute à la fin du 19e siècle. Vous nous apprenez, Albert Algout, que la Castafiore entend donc Aino Akte à Naples, à peu près à l'époque de cet enregistrement, oui, au début du 20e siècle.
Oui, en fait. Au Teatro di San Carlo. Elle est toute jeune, la Castafiore, et elle entend Aino dont le premier nom était Aino Akte. Elle avait acheté, donc qui était un peu plus âgée qu'elle, puisqu'elle était née en 1876, morte en 1944. Ça a été une star considérable, qui a chanté Wagner, Tannhauser, et Puccini, notamment Puccini. Donc le lien avec la Castafiore se fera, et c'est la première fois, amenée au théâtre par son mentor, Moreschi, elle entend l'air des bijoux, et Moreschi dit, toi aussi tu chanteras l'air des bijoux.
Avec le succès que l'on sait.
Voilà. Si l'on souvient plus, malheureusement, de la Castafiore que voilà. Nous a acheté. Vous voyez, c'est curieux, l'ingratitude artistique.
Et Albert Algout, vous nous apprenez dans cette biographie donc de la Castafiore qu'elle a croisé en fait tous les grands artistes de son temps. On croise au gré des pages de votre livre Colette Renard, Joséphine Baker, Anna Marley avec le chant des partisans.
Il faut savoir que le chant des partisans, les paroles sont attribuées à Joseph Kessel, mais la mélodie, c'est une femme, Anna Marley, qui était une émigrée russe, installée auprès dans les locaux de la France libre à Londres, donc une des premières résistantes, qui a composé la musique sur un chant traditionnel russe. Et la Castafiore est devenue amie avec elle, bien sûr, via Joséphine Baker. Elle a croisé le général de Gaulle, elle a chanté à la BBC anonymement, on ne dit pas que c'est la Castafiore, notamment la Marseillaise un soir qui a ému la résistance française.
Elle au moment de Birakem, c'est ça,
au moment de ce premier sursaut de la France libre.
Et puis très étonnant, dans les années 60, en fait, on la croise dans New York underground où on voit les noms de Lou Reed, d'Andy Warhol. On n'imagine pas cet artiste croisé de tel phénomène.
Vous savez, c'était C'était logique. Il y a une des chansons de Lou Reed, c'est You'll be my mirror, tu seras mon miroir. Et donc évidemment, ça fait appel au miroir de l'ère des bijoux. Et la Castafiore est une créature vraiment à part. On le découvre au cours de cette enquête. Et donc il était normal qu'elle s'acoquine, qu'elle s'amourache de personnages très très intéressants de leur grande New Yorkais, puis français.
Ouais. Et puis alors, dans les années 70 et 80, elle est installée à Londres, où c'est déjà quand même une vieille dame, où elle donne des masterclass, et vous nous apprenez que tous les grands noms de la variété française sont venus recueillir ces conseils, notamment, Dalida, Sylvie Vartan, Dave, le fameux François-François.
Ah, François-François, bien sûr.
Qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut quand même un artiste très connu dans les années 90, qui est quand même passé à Bercy.
Bien sûr.
Dans le top 50.
Donc je rappelle que le tube Megadisco à Mogadiscio, la musique a été composée par Alexandre Desplat.
Qui à l'époque n'était encore pas l'artiste couvert de César et d'Oscar.
D'Oscar et de Golden Globe qu'il est aujourd'hui, oui. Mais il avait déjà du flair, vous voyez.
Oui, exactement, oui.
Pour révéler François-François, il fallait en avoir quand même.
Exactement. Et puis également, alors un artiste qui a eu vraiment du succès et qu'on n'a pas vraiment oublié aujourd'hui, qui a profité lui aussi des conseils de la Castafiore. Somerville et Bronski Beat, c'était Small Town Boy en 1984. Et Albert Algou, vous nous apprenez que si on tend bien l'oreille, en fait, la voix qui est remixée derrière, en fait, c'est la voix de la Castafiore. Alors.
Oui, elle a prêté ses voix, une sorte de chœur, si vous voulez.
Ouais.
Oui, c'est la voix de la Castafiore qu'on
entend. Donc c'est finalement un rare.
Très rare document, oui.
Ouais, témoignage.
En dehors des albums, évidemment.
Oui, bien sûr. Mais on aurait aimé avoir des archives sonores.
Mais elle n'a pas eu de chance parce que tout au long de sa carrière, les documents qu'on aurait pu avoir ont disparu, ont soit été brûlés, soit, par exemple, pendant la guerre, les roches du film Une partie de campagne de Renoir, dont Visconti était l'assistant, la Castafiore avait participé. Malheureusement, dans les bombardements qui ont suivi, suivi l'invasion de la Sildavie, eh bien, les roches ont brûlé, par exemple. Pareil pour... on peut voir une apparition lointaine dans Mora Venise.
Vous nous dites que comme elle a retravaillé après, elle a retrouvé Visconti après.
Elle est très amie avec Visconti après, et donc on la voit apparaître très très furtivement sur la plage au lointain, mais bon, il faut choper la silhouette et évidemment.
Sur la plage du Lido, c'est ça
sur la plage du Lido
dites,
à Venise, oui.
Et également dans le Guépard, dans la grande salle de
Guépard,
de bal,
la grande salle du bal, oui.
D'accord.
Mais là, éphémère, oui.
Donc il faut vraiment regarder
avoir
avec beaucoup
avoir
l'œil.
Pour pouvoir faire un ralenti.
Voilà, exactement. un arrêt sur image. Et de même qu'elle apparaît dans certaines pages du sceptre d'Ottokar, je pense à une grande
salle. À la fin du sceptre d'Ottokar, pour les lecteurs qui voient même se souviennent vaguement de l'album, c'est une scène assez marquante, la scène du bal, la grande
c'est
scène.
Ça, voilà. Ouais.
Il y a Hergé, sa femme, Germaine, il y a Jacobs, le grand dessinateur, l'auteur de Black and Mortimer, qui dessinait les décors pour Hergé. Et puis, il y a la Castafiore qui est représentée. Elle est très reconnaissable à son physique ginoïde, un peu mamelu, et son nez de toucan, à piquer des gaufrettes.
Oui, j'avais pas fait attention. Du coup, j'ai
on revoit différemment les choses.
Ben voilà,
moi-même, j'étais surpris, parce que c'est une chose que j'ignorais. Et en menant cette enquête, j'ai découvert un secret bien plus lourd la concernant. Mais là, on ne peut pas le dévoiler à l'antenne.
Non, il faut que les auditeurs deviennent lecteurs. Dernière chose, Albert Algout, quand est-ce que l'on a vu la Castafiore pour la dernière fois? Vous me dites apparemment, c'est tout récent. Mais alors,
malheureusement et heureusement, c'est un moment très émouvant. C'est à Naples pendant le, à Milan pendant le confinement. Elle est apparue sur la terrasse de la Scala, et là, elle a chanté. Elle a chanté pour les Italiens, pour leur donner du courage. Et c'est son ultime apparition, donc il faut espérer qu'elle n'a pas succombé au méchant virus. Mais je ne pense pas, car celui qui aura la peau de la Castafiore n'est pas encore né, je crois. Apparition très émouvante.
Oui, mais il y a pareil, pas de témoignage, il n'y avait pas de micro, pas de caméra.
Il y a la population de Milan, puisqu'après ils ont repris « Fils d'Italie ». En hommage à la Castafiore, ils ont chanté l'hymne national à pleine voix pour la saluer.
Très bien, merci beaucoup Albert Algout pour nous faire découvrir ce personnage absolument fascinant de Bianca Castafiore. Donc je rappelle le titre de votre livre, La Castafiore, nouvelle biographie très enrichie et toujours non autorisée, qui vient de paraître au Cherche Midi. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annie Comier. La semaine prochaine, pour terminer l'année, dans l'insouciant, je serai en compagnie de Pierre Brévignon et nous évoquerons ensemble le groupe de 6 et les années folles. D'ici là, bonne journée et bonne semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.